c'est quand même du coup, c'est ce qu'il y a de plus simple pour tout expliquer.
Sans vouloir trop simplifier, Evelyne, le titre le dit, les embrouilles idéologiques. Ce qui ressort de ce que vous dites là, et puis ce qui ressort quand même en grande partie du papier que vous vous êtes donné la peine de faire, et c'est quand même une embrouille. C'est quand même bien, bien tordu, bien compliqué, bien pervers. Il y a une véhémence indéniable du personnage. Il y a un discours très vindicatif. Il fait partie de ces tribuns, enfin, qui mélange absolument tout. On a parlé de son antisémitisme forcené. Il y a aussi quand même une chose qu'on a déjà vu se produire, qui est ce qu'on appelle les rouges bruns. Cette alliance de ceux qui sont à l'extrême gauche et qui finissent par retrouver les bruns, c'est-à-dire le fascisme. On a vu cette alliance s'opérer souvent et ça continue. Et je pense, enfin, pour ma part, que Soral, avec un discours très séduisant, très malin et très perturbateur, avec un jeu de contre-pied et de tacle extrêmement habile, relève de cette tradition rouge-brune.
Oh oui, non, mais ça, c'est absolument d'accord. C'est pour ça que c'est un peu du sérieux, quand même. Alors, le rouge, à vrai dire, il n'est pas si rouge que ça, mais il y a une revendication, quand même, d'égalité sociale.
Mais il y a Chavez, il y a Guevara,
il y a
Lumumba, il y a Sankara, oui. Il y a des références
qui sont des références
qui appartiennent à la gauche.
Et le brun va venir, en réalité, de la dénonciation d'une mondialisation, marchandisation de l'homme. C'est-à-dire, du coup, comment retrouver l'humanité de l'homme contre la mondialisation? Ben, retour à la tradition. C'est pas, il appelle ça nation. Bon, d'accord. Et parfois, on a l'impression que c'est un peu le terroir, quoi, quand même. Hein.
Oui, oui, oui. Il y a du pétain, dans le fond.
Disons qu'il, je sais pas, il synthétise toutes les colères, même les plus contradictoires, même les plus illégitimes. Et il le fait d'une certaine manière parce que les partis politiques et les syndicats n'assurent plus le travail de formation politique qu'ils assuraient autrefois. Donc il laisse des tas de gens un peu désemparés qui, encore une fois, butinent pour se faire une éducation politique et qui, grâce à Soral, vont d'une colère à l'autre avec Soral qui, sur son canapé, assure en quelque sorte la synthèse de tous ces mécontentements, leur donne une voix et leur donne un visage.
Dernière page du diplôme avec Sébastien Lapacque. Le vin, virgule, du terroir à la marque. Comment est-on passé du vin de terroir à la marque? Il y a des choses tout à fait inquiétantes dans votre histoire, hein, Sébastien. C'est la saison qui vous a poussé à ça?
Oui, bah oui, parce que les vendanges ne sont pas faites partout en France. Puis on parle de réchauffement climatique, mais vous voyez, il y a apparemment des variations dans ce réchauffement. Le vin est un produit quand même extrêmement lié au climat et qui fait que dans l'agriculture et la viticulture mondialisée, ça pose un énorme problème. Le rêve du capitalisme total, c'est une boisson parfaitement uniforme qu'on pourrait reproduire d'une année sur l'autre de manière parfaite. Et surtout, s'il en faut trois fois plus, on en fait trois fois plus, 30 fois, 300 fois plus. Donc l'idéal, ce serait un alcool de grain. Ce que je dis dans mon article, c'est gin, whisky ou vodka. Alors là, vous êtes lié aux caprices du temps, déjà. Et donc vraiment, le raisin, c'est un produit fragile, contrairement effectivement aux céréales avec lesquelles on fait le whisky. Mais par contre, le vin, c'est lié historiquement, très précisément, à un lieu. Alors apparemment, c'était un produit assez aromatisé. Et à partir de la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ, 121 d'après les spécialistes, il y a des premières traces où là, on commence à désigner l'origine. Alors là, on dit dans tel endroit, c'est bon et c'est meilleur qu'ailleurs. Le vin de Falerne notamment, que Auguste aimait particulièrement. Donc les Romains commencent à identifier des endroits de production. Effectivement, les années sont liées à un consulat chez eux, donc on commence à identifier des millésimes, donc des conditions météorologiques. Donc quand vous commencez déjà à croiser conditions météorologiques plus lieu, qui peut être minuscule, je rappelle la Romanée Conti, 1,8 hectare.
Oui.
Alors effectivement, un groupe du luxe international comme LVMH est forcément tenté. Bernard Arnault, ça lui ferait plaisir d'avoir la Romanée Conti dans son escarcelle. Le problème, qu'est-ce qu'il fait avec ce petit clos fermé, 1,8 hectare, 6000 bouteilles par an? Alors que quand il achète Dom Pérignon, quand il achète, ça fait 600 000 bouteilles, on en fait 6 millions, 7 millions, 8 millions aujourd'hui. On a des approvisionnements de qualité en raisin. Alors, j'espère que tout vient de Champagne, mais bon, vous savez, c'est une question de taille. C'est-à-dire qu'une vigne, vous pouvez, selon la taille, vous pouvez lui faire 30 hectos à l'hectare, 40, 50, 100, 200. À 200 hectos à l'hectare, le jus de raisin, c'est de l'eau. Mais c'est pas grave, vous avez du raisin récolté sur un endroit, puis après, là, vous avez dans votre chai carrelé, qui vous effraie, dont vous me parliez, et là, vous mettez tous les cosmétiques œnologiques autorisés par la loi, d'ailleurs. Tout ça est parfaitement légal.